une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions revenus à Provins, sur les lieux du tournage du film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Aujourd'hui, Dominique Prussac et Anna Schmuck vous parlent du Père Jean. 1944, Seine-et-Marne, l'histoire des résistants d'avant.
Même si notre histoire commence par « Il était une fois », elle ne se terminera pas bien. Et si nous vous la racontons aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est arrivée un jour d'hiver 1944 dans notre petite ville, dans l'enceinte même de notre petite école.
Nous voici arrivés à Avon, là où s'est déroulée la véritable histoire du film Au revoir les enfants. Avon, c'est juste à côté de Fontainebleau et en bordure de la forêt de Fontainebleau, où l'on peut d'ailleurs grimper sur beaucoup de rochers, comme dans le film. Alors, je suis en présence ici de deux frères, le frère Didier Joseph et le frère Robert Arcas.
Nous sommes ici dans une partie de l'ancienne cour du collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, appelé le Petit Collège, qui est aujourd'hui la cour du centre spirituel des frères Carmes d'Avon.
Louis Malle est venu ici, alors j'imagine.
Louis Malle a été élève en 1943-44, et puis dans les années après-guerre aussi. Oui, il a été élève ici.
Alors où se trouvait exactement le petit collège ?
Bien, le petit collège se trouvait, c'est la partie que vous avez devant vous. C'est un bâtiment du XVIIIe siècle, c'est un ancien hôpital du XVIIIe siècle. Et puis derrière, des bâtiments qui avaient été construits avant-guerre par le Père Jacques pour répondre au développement du petit collège, qui restait tout le temps un petit collège, mais au départ il y avait 30 élèves, puis il y en a eu jusqu'à 120.
Vu d'ici, on a une très belle cour. Hein. Et cette cour, elle est très grande avec ses arbres, elle est magnifique. Hein. C'est une vraie cour d'école. On imagine que les enfants se sont bien amusés ici, sur des échasses notamment.
Oui. Effectivement, c'était le terrain de jeu. Et le père Jacques, d'ailleurs, jouait pendant les récréations avec les élèves. Ce n'était pas un directeur qui était en retrait.
De toute façon, il était animateur, leader. Oui. Il entraînait tout le monde,
oui,
le père Jacques.
Directeur, hein. Il était complètement présent. Hein. Très proche ses élèves.
On voit bien jouer au foot.
Voilà, oui.
Avec ses élèves.
Au collège des Carmes, le père Jacques pratiquait une pédagogie nouvelle. Les exercices physiques dans la forêt de Fontainebleau. Les cours de dessin dans le parc du château. Et tous les élèves partageaient les temps faibles, les temps forts et pouvaient rêver d'un avenir meilleur sans discrimination. À un avenir de liberté et de responsabilité.
Frère Didier Joseph, vous êtes le prieur de cet endroit.
4 fois par jour, les frères se rassemblent dans la chapelle. Ici, donc, c'est la cloche qui annonce la messe, célébrée tous les jours, pour les personnes qui viennent en retraite ici au couvent, et pour d'autres qui sont dans les environs, qui savent que tous les jours, à midi moins le quart, nous avons l'Eucharistie.
On pénètre à l'intérieur du bâtiment maintenant.
Aujourd'hui, si vous entrez dans ce qui est la partie centre spirituel et couvent, vous verrez, on a essayé donc une équipe qui travaille un petit peu à la décoration. On a repris des anciennes photos qu'on a posées près de la chapelle du temps du Père Jacques, au niveau des salles à manger, donc des réfectoires, au niveau des salles qui servaient de dortoir, etc. C'est-à-dire que pour que les personnes qui arrivent découvrent aussi, essaye d'imaginer ce que pouvait être la vie au temps du Père Jacques. Pas mal de personnes passent quelquefois, demandent un peu comment c'était, etc. Ils rentrent dans la cour, ils demandent, au fait, j'ai entendu parler du film, j'ai entendu parler du Père Jacques, montrez-moi, dites-nous un peu où est-ce que c'est, où est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc on essaye aussi de penser à cet album de photos que les gens pourraient regarder d'une manière générale quand ils passent pour se souvenir.
Voilà. C'est la grande salle d'études.
Voilà. D'ailleurs, je ne vois pas de filles, hein, il n'y a que des garçons.
C'est un pensionnat de garçons, oui. Il y avait à l'origine une idée de petit noviciat, de juvénat, de... de préparation peut-être à des vocations religieuses ou presbytérales. Voilà, c'était le concept de base. Au départ, c'était un peu conçu pour cela, le petit collège. Mais quand le père Jacques a été nommé le directeur, père Jacques avait été professeur, éducateur et professeur à Saint-Joseph du Havre. Et il était prêtre donc depuis 1925, est entré au Carmel en 1931. Là, il est tout jeune, il est né en 1900, donc il est directeur, il a 35 ans. Il a des idées d'éducation. Il sait que ce concept de petit séminaire de préparation des futures vocations, ça ne marchera pas. Enfin, il sait très bien. Et son provincial le savent aussi. C'est pas trop dans la tradition française. Alors, vous voyez ce qu'on appelait le dortoir des petits.
Encore une photo, parce que là, on regarde encore une photo. Au temps du père Jacques, le dortoir des petits.
Oui, alors on voit donc cette photo, ce qu'on appelait le dortoir des petits, parce qu'il y avait le dortoir des grands. Le dortoir des grands était dans une salle. Attendez, ce dortoir des petits, ça doit être ce qu'on appelle aujourd'hui la salle Thérèse d'Avila. On va y aller, mais ça ne ressemble plus à ça, bien évidemment. Moi, j'ai connu, vous voyez, tout au fond de la photo, vous avez des placards. C'était des petits placards pour les élèves. Les élèves mettaient là leurs affaires. D'ailleurs, dans le film de Louis Malle, on voit cela. D'ailleurs, ils ont chacun leurs affaires, les internes, dans leur... ils ont un petit placard à eux.
En tout cas, Moi, ce qui me saute aux yeux, si on peut dire, c'est la lumière.
La lumière.
Beaucoup de lumière dans ce bâtiment, beaucoup de fenêtres.
Vous avez raison. Alors, le père Jacques voulait cela. Hein. Il voulait pas d'une pension triste, vraiment, qui soit déprimante pour les élèves. Il voulait qu'il y ait beaucoup de joie, beaucoup de joie de vivre dans son collège. Et ça, alors les couleurs, les couleurs des murs, tout ça. Enfin, il avait pris soin, il s'occupait de tout cela. Quand il a fait construire cela, ça a pris quelques mois. Rendez-vous compte, quand même, il arrive ici au printemps 34 et en octobre 34, donc ça fait quelques mois. Voyez, il doit accueillir une trentaine d'élèves, il doit tout faire. Il doit embaucher des professeurs, des surveillants, un petit personnel administratif, et puis aménager les locaux pour accueillir les premières classes. Je crois que c'est des 6e, 5e, 4e, 3e. Il y a eu une trentaine d'élèves la toute première année. Et puis chaque année, les effectifs ont grandi, bien sûr. Chaque fois, on rajoutait une classe, hein, une troisième, puis une seconde, etc. Et il s'est occupé de tout, y compris de la vaisselle. Et il s'occupait de tout, de la couleur des murs. Oui, il avait soin de faire un lieu beau.
C'est un lieu de vie. Quand on dit tout ça, j'ai l'impression que ça vivait ici, ça bougeait, il y avait du mouvement.
Tout à fait. Ah oui, bien sûr. C'est la jeunesse.
Alors, Madame Perrin, qui veut du saucisson ?
Moi ?
C'est du cheval, je vous préviens.
Merci.
Faut que je mange, je fais de l'anémie.
Et nous alors, t'as entendu le père Jean ?
Il y a un passé pour tout le monde, sans cabanonner aux parents.
Il n'y a plus qu'un morceau.
Sers-toi.
Merci, t'es chic.
Il y avait ce regard qui vous perçait et qui savait très très bien déceler à la fois ce que vous étiez, ce que vous pouviez faire, jusqu'où vous pouviez aller. Il n'avait pas son pareil pour susciter chez chacun de ses élèves ce qui pouvait être le meilleur.
François-Xavier de Seyès, ancien élève de la classe des grands.
Il voulait que l'éducation dans cette maison soit une éducation ouverte, donc qui soit faite de culture. Il avait une soif d'inoculer une culture générale, une culture approfondie dans tous les domaines, et notamment une culture sociale également. Il était très très conscient des responsabilités sociales que devaient avoir ses élèves un jour. Et son horreur, c'était la médiocrité et la vie d'embourgeoisement.
Je suis un enfant juif et mon costume, c'est juif. Ça, c'est le prénom français, pour pas qu'on me reconnaisse. Et ça, c'est le prénom juif. Le vrai nom, c'est Anselmout Michel, et le faux nom, c'est Jean Bonnet.
Le prénom juif, c'est Jacques Alterne. Et le prénom, le faux prénom français, c'est Jacques Dupré, pour pas qu'on reconnaisse l'enfant et qu'il soit envoyé dans les camps de concentration.
Faux nom, donc Maurice Sabatier, et le vrai nom, Maurice Locher.
Et à côté de vous, il y a aussi quelqu'un qui est parti, malheureusement, avec vous.
Le père Jacques. Il nous a accueillis dans une école, dans le couvent des Carmes. C'était le directeur. Directeur du collège des Carmes. Et c'était le professeur.
Le père Jacques, un soir, je me souviens très bien, ça devait être en janvier ou février 1943, nous a dit ce jour-là, ce soir-là, je vous annonce que vous allez bientôt voir arriver parmi vous trois élèves, l'un en classe de seconde, un autre en classe de cinquième, un autre en classe de sixième. Ce sont des enfants qui appartiennent à des familles des arrêtés. On savait très bien qu'à ce moment-là, il y avait des déportations déjà en 1943. Et le père Jacques nous a dit, j'en appelle à chacun de vous pour garder absolument, c'est un risque que nous prenons, Mais une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Je demande à chacun de vous d'abord d'accueillir d'une manière parfaitement naturelle ces enfants, de faire comme s'ils étaient absolument vos camarades en tout point, de leur marquer votre gentillesse et de ne jamais en parler autour de vous.
C'est déjà ?
Vous
êtes prêts ? Un, deux, trois.
Amis, entends-tu le clameur des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Albert Ouzoulias, dit le colonel André, commissaire militaire national des FTP.
Il savait que j'étais communiste. Nous avions la même idée de la dignité de l'homme, la même idée de la liberté, de l'indépendance du pays, et la même idée aussi dans des formes sans doute différentes de l'avenir. Le père Jacques était vraiment le chrétien et l'homme dans toute l'acception du terme. On se ressourçait, et le père Jacques apportait son calme, son intelligence et puis son grand humanisme, tout son cœur.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Il avait eu des camarades qui étaient des syndicalistes et c'était des excellents camarades à lui et je me souviens très bien, il faisait venir ses camarades et qui faisait des causeries aux élèves et le père Jacques adorait ça. Et comme on avait une immense admiration pour cet homme, eh bien on se disait que ce dans quoi nous avions été élevés pouvait peut-être être un peu révisé.
Moi, je dirais que dans sa tête, c'est un résistant. C'est un homme qui a toujours été dans la résistance. Concrètement, savoir quand il est entré dans un réseau de résistance, c'est une autre affaire. Mais en 42, 43, il est résistant.
Parce qu'il appartient au réseau Vélite Thermopyle. Il est agent de renseignement et il a le matricule RX 3280. Donc, c'est pas un petit agent de rien du tout. Tout de même.
La municipalité, on sait aujourd'hui que la municipalité était résistante dans l'ensemble. Le père Jacques était en lien avec Rémy Dumoncel, avec Paul Matéry.
Qui était le maire et le secrétaire de mairie.
Il y a une personne qui dit un jour, un de nos frères, que probablement il y avait une centaine d'enfants juifs qui étaient passés ici. N'avait fait que passer, mais ça avait été une étape dans leur sauvetage.
En 1985, le père Jacques de Jésus a reçu le titre de juste parmi les nations.
À mairie, le secrétaire Paul Matéry, d'origine alsacienne, heurté par la barbarie, s'était empressé dès son arrivée en 1941 de rejoindre le réseau de résistance auquel appartenait le maire Rémy Dumoncel et le père Jacques, directeur du collège des Carmes.
Paul fabriquait de vraies fausses cartes d'identité.
Tandis que Lucien Canu, le chef du ravitaillement pour la mairie, fournissait de fausses cartes d'alimentation pour les réfugiés juifs qui vivaient cachés dans le collège des Carmes, le sanatorium d'Avon ou une famille avonnaise.
Alors le père Jacques, lui, a été arrêté dans cette classe. Il y faisait un cours de français et au cours de la seconde heure de classe, il s'est ouverte et un homme de la Gestapo, vêtu en civil, est venu appeler le père Jacques ainsi que Jeanne Dupré.
Sait-on qui les a dénoncés ?
Alors ça, c'est vraiment un mystère qui reste. On ne sait toujours pas qui a dénoncé exactement les enfants. Il y a un mystère autour de ça. Il y a plusieurs versions. Quand il y a eu l'arrestation, les hommes de la Gestapo sont entrés directement dans les trois classes où il y avait les trois enfants et dans une, en plus, le père Jacques qui était en train de jouer son rôle de professeur.
Et avec les noms d'emprunt.
Avec les noms d'emprunt.
Ce qui veut dire que tout le monde pouvait les identifier immédiatement.
Bien sûr. Donc l'histoire du regard de Louis Malle qui dénonce son copain involontairement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les trois qui sont entrés dans les classes, les trois policiers de la Gestapo qui sont entrés dans les classes, savaient qui ils venaient chercher et dans quelle classe ils venaient les chercher.
T'en fais pas, c'est que des juifs. Bonnet, tu l'aimais bien ?
François Négret, quand je vous regarde, finalement, vous n'avez pas beaucoup changé 30 ans après. Vous êtes toujours le Joseph du film d'Au revoir les enfants. Parce que Joseph, ce n'est pas n'importe quel rôle, c'est un rôle clé.
Ouais, c'est le rôle du salaud avec des circonstances atténuantes.
C'est celui qui dénonce Joseph, hein ?
Ouais, tout à fait. C'est celui par qui le scandale arrive. Enfin, le...
Ou la tragédie, quand même.
La tragédie, plutôt, ouais.
Comment on entre dans un rôle d'antisémite, de haine du juif ?
C'était un peu contradictoire de jouer ce rôle-là, alors que mon père m'a raconté beaucoup, beaucoup d'histoires de... Mon père s'est caché entre 1939 et 1945 pour échapper aux nazis. Il avait entre 13 et 18 ans. Ses grands-parents polonais sont morts dans les camps. Son père est mort dans les camps, mon grand-père. Donc tout ça était quand même très chargé et me parlait de manière contradictoire. C'est difficile à définir de comment ça parle, en fait. Mais bon, c'est un rôle, quoi.
Dans le film, on le traite de chien, Joseph. C'est très violent aussi de la part de ceux qui le regardent et qui le prennent un peu comme un larbin.
Oui, il est handicapé, il a un pied beau, donc c'est la différence. Alors que au départ, c'est juste un gamin mal dans sa peau, qui n'est ni dans le monde des adultes, ni dans le monde de l'enfance, et qui est désargenté. Par rapport à tous ces bourgeois de l'école aussi, il y a un phénomène de racisme social.
Lors de leur arrestation le 15 janvier 1944, les trois enfants juifs sont emmenés à Melun, ainsi que la famille du professeur Veil de Fontainebleau, de là à Drancy, et le 6 février 1944, ils meurent dans les chambres à gaz à Auschwitz.
Marie-Vanne Braunschweig, vous avez écrit un livre remarquable avec Bernard Gidel et tous les enfants de l'école d'Avon, un livre qui s'appelle « Les déportés d'Avon », enquête autour du film de Louis Malle, « Au revoir les enfants ». Et il y a vraiment quelques pages qui m'ont interpellé dans ce livre. C'est la façon dont l'adjoint de la Gestapo de Melun, Korff, a été peu puni pour ses crimes de guerre.
Il n'est pas le seul hein, dans ce genre. Barbie à la fin de la guerre passe inaperçu aussi. D'abord, On ne retient pas le crime contre l'humanité, on ne retient pas le crime contre les Juifs. Ça n'entre même pas dans les débats. On retient ces actes de torture, on retient les arrestations de résistants, on retient les exécutions de résistants, on retient les pillages, mais l'arrestation de Juifs, ça fait pas partie des choses pour lesquelles on le juge. Alors il a été d'abord protégé un peu par les Anglais, tous ces hommes de la Gestapo ont été utilisés par tous les services de renseignement soviétiques, américains, français et britanniques. Bon, les Britanniques finissent par le laisser aux Français en 53, un procès a lieu en 53. On lui reproche beaucoup de choses, dont le massacre des 5 oblats de la Brosse Monceau, mais on ne lui reproche pas l'arrestation des 3 enfants juifs et leur envoi vers la mort. Et donc, il est condamné à la réclusion perpétuelle et il est libéré au bout de 10 ans au nom du rapprochement des relations, de l'amélioration des relations franco-allemandes qui aboutissent au traité de l'Élysée de 1963. Et je trouve incroyable que lorsqu'on parle, on a célébré il n'y a pas si longtemps le traité de l'Élysée, jamais on ne rappelle que c'est quand même De Gaulle qui a libéré tous ces criminels de guerre.
Vous, vos papiers, monsieur, s'il vous plaît.
Dis donc, toi, tu sais pas lire ? Ce restaurant est interdit aux Youtres.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'embêter les gens ? Il a l'air si convenable, ce monsieur.
Monsieur Meyer vient ici depuis 20 ans. Je peux pas me mettre à la porte, quand même.
Toi, le Loufia, ferme-la. Si je veux, je peux faire révoquer votre licence.
Hein ? Collabo.
Tais-toi, François.
C'est toi qui as dit ça ?
C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit.
Nous sommes au service de la France, madame. Ce garçon nous a injurié.
Mais allez-vous-en !
Moi, j'ai pensé que c'était pas juste que les Juifs n'aient pas le droit d'aller à certains endroits dans la ville. J'ai trouvé ça que c'était injuste que certaines personnes qui ont une religion différente n'aient pas le droit d'aller comme les autres dans un parc.
Je pense, moi, que cette histoire, elle peut effrayer d'autres personnes ou d'autres enfants, parce que quand même, tuer des millions de personnes sans aucune raison comme ça, c'est un peu illégal, c'est contraire à leur loi.
Mais en fait, les Juifs étaient traités comme des animaux, parce que même quand on les déportait, ils étaient sans nourriture, dans des wagons d'animal. Donc, on leur interdisait tout.
En fait, les Juifs, pour moi, ils vivaient pas, ils survivaient. C'était dur d'échapper au camp de concentration des Allemands.
J'ai aussi trouvé poignant que la solidarité entre des personnes non juives pour sauver d'autres personnes qui n'ont pas la même religion au péril de leur vie, j'ai trouvé ça poignant et que c'était de bons exemples à suivre. Quand par exemple il y a des nouveaux qui sont pas comme nous, on essaye de les accepter. On est tous différents et c'est ce qui fait la richesse de la race humaine. Que tout le monde soit différent, c'est bien parce que si on était tous pareils, ça serait pas drôle.
Comme disait notre maîtresse, on est tous sur le même bateau.
J'ai bien aimé quand le père Jacques il a dit au revoir les enfants, mais il n'a pas dit adieu parce qu'il voulait pas leur dire adieu. Après, il y avait des moments poignants quand Emeline a dit. Et j'ai bien aimé.
Philippe Morier-Genoux, vous incarnez le père Jean dans le film « Au revoir les enfants ». Comment êtes-vous rentré dans la peau de ce prêtre ?
Moi qui étais donc un huguenot, bon teint si vous voulez, on me demande de jouer le rôle d'un prêtre. Et je m'étais dit, j'aimerais savoir qui c'est cet homme, comment m'approcher de lui. J'avais quelques photos, je voyais une vague ressemblance. Bon, j'avais un copain qui me disait « Bon, on va te mettre une robe de bure dessus et tu seras immédiatement identifié comme un prêtre. » Et ça suffisait pas. Donc, je me suis permis d'aller interviewer un jésuite à Paris. J'avais un ami jésuite qui m'avait dit « Mais pourquoi tu n'irais pas voir le père Riquet ? Il a très bien connu le père Jacques de Jésus. » Et pour qu'il comprenne mieux, je lui disais, écoutez, je dois moi me renseigner sur quel était ce personnage, l'avez-vous connu, comment parlait-il, avait-il des manies, etc., etc. Et là, il m'a donné quelques tuyaux, il m'a donné quelques indications du... Et surtout des indications très très éthiques, morales, enfin, gardait une haute idée de ce personnage. Mais par contre, ce qui m'a aidé, c'est que lui m'a raconté sa déportation à Buchenwald ou à Gusen, et c'était deux camps qui fonctionnaient ensemble, et ils se seraient rencontrés dans ces circonstances, parce qu'il y avait des échanges de prêtres de camp à camp, parce que les Allemands voulaient montrer à l'opinion publique qu'ils n'avilissaient pas les prêtres, donc ils les regroupaient tous dans un même camp, ils faisaient leurs prières, les messes, et ils exportaient ces images en disant, vous voyez, on respecte les religions chrétiennes. Alors du coup, j'avais là un certain nombre d'éléments, et puis les indications du metteur en scène, mais surtout j'étais dans une très très grande tristesse, parce que plus j'avançais dans la compréhension de l'événement, plus je devais imaginer, si vous voulez, l'insupportable.
Louis Deblay et Jean Gavard, compagnons de déportation du père Jacques à Gusen.
Et voilà comment pendant près de 11 mois, à quelques mètres l'un de l'autre, j'allais m'asseoir à côté de lui, chaque fois que je le pouvais. Nous avons parlé de la forêt de Fontainebleau, avant de traduire, car c'était un éducateur dans l'âme. Et quelquefois, sans motif, je me retournais pour le plaisir de le voir. Il obligeait, par son attitude, à rester calme. C'était un aimant, et en même temps, quelqu'un de reposant. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait faire de ce camp un cloître à sa propre dimension. Et puis en fait, il a dit la messe à Gusen. Je crois que c'est unique dans ce camp de la mort.
Quand on rencontrait le père Jacques, et particulièrement dans un camp de concentration, comme ça a été mon cas, on n'avait plus honte d'être un homme, alors que quand on voyait les SS, on pouvait avoir honte d'être un homme. Il savait que les détenus étaient massacrés, ils voyaient évidemment, comme nous tous, des cadavres, mais ça n'entamait pas sa sérénité. Vous savez, utiliser le mot sérénité pour un camp de concentration, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, de son point de vue, je croyais comprendre que sa présence aux autres, cette horreur que nous pouvions tous avoir, lui aussi, pour ce qui se passait autour de nous, il arrivait à dépasser ça.
Quelques jours après la libération des camps, le père Jacques meurt d'épuisement le 2 juin 1945.
Tous ont pris le train de la mort, programmé par les nazis, pour avoir dit non à l'antisémitisme, non au racisme, non à la barbarie.
Le père Jacques est sorti lui-même et il s'est arrêté là. Il avait sa cape sur les épaules et il a dit au revoir les enfants. Et alors à ce moment-là, on est tous accoudés.
Au revoir mon père.
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 Au revoir
mon père.
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
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 Et on a dit au revoir Père Jacques. Alors ça a déclenché quelques vociférations de la part des Allemands. Et je crois que le Père Jacques a dit également au revoir les enfants, continuez sans moi. Continuez sans moi.
Merci à l'institution Sainte-Croix de Provins, au couvent des Carmes d'Avon, aux élèves de Marie-Christine Agopian de l'école élémentaire Paul Matéry d'Avon.
Merci.
À Rémi Tillet et Christian Trognon de la radio Médiaval et à la société Gaumont. Extrait du documentaire Les enfants du père Jacques. Prise de son Laurent Macchietti. Mixage Claude Niort. Coordination Christine Bernard. Au revoir les enfants, les mots qu'on n'oublie pas. Un documentaire de Dominique Prussac et Anna Schmuck.